Le désespéré, chapitre 40. Marche Noire sortit de la gare de Paris au point du jour, son léger bagage à la main. Il avait besoin de marcher, de se piétiner lui-même sur les pavés et le bitume de cette ville de damnation, où chaque rue lui rappelait une escale du pèlerinage aux enfers qui avait été sa vie. Il sentit, avec toute la vigueur renouvelée de ses facultés impressionnelles, le despotisme de cette patrie. Il faut avoir vécu par l'âme et par l'esprit dans cet ombilique de l'intellectualité humaine, y avoir écorché vives ses illusions et ses espérances, et ensuite avoir trouvé le moyen de garder un tronçon de cœur pour comprendre la volupté d'inhalation de cette atmosphère empoisonnée par 2 millions de poitrines, après une absence un peu prolongée. L'homme, naturellement esclave, se rebaigne alors avec délices dans le cloaque 100 fois maudit et relèche, avec un attendrissement canin, les semelles cloutées qui se posèrent si souvent sur sa figure. Marche Noire méprisait, haïssait Paris, et cependant il ne concevait habitable aucune autre ville terrestre. C'est que l'indifférence de la multitude est un désert plus sûr que le désert même, pour ces cœurs altiers qu'offense la salissante sympathie des médiocres. Puis, sa double vie affective et intellectuelle avait réellement débuté dans ces amas des plus sûrs, où des chiens, probablement crevés aujourd'hui, s'étaient étonnés naguère de le voir picorer sa subsistance. Sa genèse morale avait commencé au milieu de ces balayeurs matutinaux, et de ces voitures maraîchères qui descendent en furie vers les halles pour arriver à l'ouverture de la grande gueule. Autrefois, quand s'achevait une de ces transperçantes nuits qui paraissaient avoir 360 heures, aux vagabonds sans linge et sans asile, il se souvenait, maintenant, d'avoir espéré quand même et d'avoir dilaté son rêve imprécis dans le frisson de semblables aurores. Ici, sur ce banc du boulevard Saint-Germain, devant Cluny, il s'était assis une fois au petit jour. Il y avait bien 20 ans. Il n'avait plus la force de marcher, et d'ailleurs, il était arrivé, n'allant nulle part. Il assignait le soleil à comparaître, ne fût-ce que par pitié, et faisait semblant de ne pas dormir pour échapper à la sollicitude des argousins. Lorsqu'un être, plus triste encore, était venu s'asseoir à côté de lui. C'était une fille errante, épuisée d'une recherche vaine et sur le point de rentrer. La physionomie du noctambule avait remué, par quelque endroit, le déplorable cœur sans tige de cette flétrie, qui voulut savoir ce qu'il était et ce qu'il faisait là. « Pauvre monsieur, lui dit-elle. « Venez chez moi, je ne suis qu'une malheureuse, mais je peux bien vous donner mon lit pour quelques heures. Je couche avec tout le monde pour de l'argent, c'est vrai, mais je ne suis pas une dégoûtante, et je ne veux pas vous laisser sur ce banc. » Ses amours de fange et de misère avaient duré une demi-journée, et il n'avait jamais pu revoir sa Samaritaine. C'était un des souvenirs qui attendrissait le plus Marche Noire. De Cluny à l'Observatoire, en remontant le boulevard Saint-Michel, il retrouvait ainsi, à chaque pas, d'indélébiles impressions, car c'était ce quartier qu'il avait le plus souvent parcouru dans les sinistres croisières nocturnes de son adolescence. Quand il fut arrivé au carrefour et presque à l'entrée de la rue d'Enfer Rochereau, où demeurait le Verdier, qu'il avait, non sans combat, résolu de voir tout d'abord avant de rentrer chez lui. Une palpitation le secoua en apercevant le restaurant banal, théâtre de sa première rencontre avec la ventouse, devenue par lui cette sublime Véronique essuyant la face du Sauveur. Il fut, à l'instant, ressaisi de tout son trouble et d'une crainte plus grande de l'inconnu. Son ami lui parut un homme infiniment redoutable qui allait prononcer de définitives choses, et il monta son escalier avec tremblement. Après les premiers cris et la première étreinte, ces deux êtres si singuliers, chacun en son genre, s'assirent l'un en face de l'autre, les mains dans les mains, haletant, pantelant, larmoyant, bégayant. « Mon cher ami, mon bon Georges !» Tous deux déjà, sentant monter du fond même de leur joie l'impossibilité de l'exprimer. Comme si les bourgeois avaient raison et qu'il existât une jalouse prohibition de l'infini contre tous les sentiments absolus. « Mais j'y pense !» cria le verdier en se levant avec précipitation. « Tu dois avoir besoin de prendre quelque chose. Je viens justement de faire du café et je possède d'excellents genièvres. Tu vas être servi à l'instant. » Marche Noir, silencieux, frémissant, n'osant interroger, remarquait que le nom de Véronique n'avait pas encore été prononcé. Il observait aussi que l'empressement de son ami était quelque peu fébrile et tumultueux, et qu'en somme, il aurait fallu 10 fois moins de temps pour servir la plus grande tasse du meilleur café de la terre. Tout à coup, il alla vers lui, et lui posant ses 2 mains sur les épaules. « Georges, dit-il, il y a quelque chose, je veux le savoir. » Le verdier avait à peu près son âge. C'était un de ces nègres blonds, lavés au safran des étoiles et frottés d'un pastel sang, qui plaisent aux femmes beaucoup plus qu'aux hommes, ordinairement mieux armés contre les surprises de la face humaine. Le trait dominant de sa vibratile physionomie était les yeux, comme chez Marche Noire. Mais, au contraire de ces clairs miroirs d'extase, allumables seulement au foyer de quelque émotion profonde, les siens étaient perpétuellement dardants et perscrutateurs, comme ceux d'un pigargue en chasse ou d'un loup cervier. Nul éclair de férocité, pourtant. De toute cette figure transudait, au contraire, une bonté joyeuse et active, dont l'expression valait un miracle, et l'intensité même de son regard était un simple effet de la merveilleuse attention de son cœur. À peine une vague ironie relevait-elle, parfois, la commissure, et remontait plisser le coin de l'œil droit. Visiblement, la palette de cette âme était au grand complet, à l'exception d'une seule couleur, le noir, dont un déluge de ténèbres n'aurait pu réparer l'absence. Cet homme avait évidemment reçu pour vocation d'être le grand public consolateur, à lui tout seul, et pour l'unique virtuose qui pût se passer d'applaudissements vulgaires. Le contraste était saisissant quand on les voyait ensemble, chacun d'eux paraissant avoir précisément tout ce qui manquait à l'autre. De taille moyenne, tous deux, Marche Noire offrait l'aspect d'un molosse dont l'approche était à faire trembler, mais que le premier élan de sa colère pouvait porter dans un gouffre, s'il manquait sa proie. Le verdier, au contraire, frêle d'apparence, mais légèrement félin sous le cimier de ses cheveux crépus, et trempé depuis son enfance dans toutes les pratiques du sport, avait des ressources d'art qui en eussent fait un voltigeur auxiliaire des plus à craindre pour l'ennemi commun, si on se fût avisé de les attaquer. Et on devinait qu'il devait en être ainsi de leur coalition morale. Le pauvre lynx, se voyant happé, essaya d'abord de baisser les yeux. Mais aussitôt, sa loyale et vaillante âme les lui fit ouvrir, et les deux intimes plongèrent ainsi l'un dans l'autre quelques secondes. « Eh bien oui, » répondit-il nerveusement, « il y a une chose. Sans nom. Tu as écrit une lettre insensée à Véronique, et la pauvre fille s'est défigurée pour te dégoûter d'elle. » À cet énoncé inouï, Marche Noire tourna sur lui-même et, s'éloignant obliquement à la façon d'un aliéné, les 2 bras croisés sur sa tête, se mit à exhaler des rauquements horribles qui n'étaient ni des sanglots ni des cris. Il sortit de lui des ondes de douleur qui s'épandirent par la chambre et vinrent peser comme une montagne sur le tremblant le verdier. Transpercé de compassion, mais impuissant, cet ami véritable se courba et s'appuya le visage sur le marbre de la cheminée pour cacher ses pleurs. Cette scène dura près d'un quart d'heure. Alors, les gémissements énormes s'arrêtèrent. Marche Noire s'approcha de la table et, prenant la bouteille de gin, remplit la moitié d'un verre qu'il vida d'un trait. « Georges, dit-il ensuite d'une voix extraordinairement douce, « essuie tes yeux et donne-moi du café. »« Très bien. Assieds-toi ici maintenant et raconte-moi par le menu. Désormais, je peux tout entendre. » Chapitre 41. Le verdier chérissait Véronique à sa manière et le plus fraternellement du monde, parce qu'il voyait en elle une chose à Marche Noire. Cet être, si singulièrement organisé pour l'exclusive passion de l'amitié, n'avait jamais eu besoin de combattre pour écarter de lui d'autres sentiments. Celui-là comblait largement sa vie, ayant assez d'ampleur pour s'étendre à des multitudes, si son grand artiste avait pu devenir populaire. Il avait voué une sorte de reconnaissance, exaltée jusqu'au culte, à la simple créature en qui Marche Noire avait trouvé consolation et réconfort. Médiocrement ouvert à cette mystique sacrée dont Marie-Joseph avait fait son étude et que Véronique assumait en sa personne, il lui suffisait que ses amis y rencontrassent leur joie ou leur aliment. Il n'en demandait pas davantage, se réjouissant ou s'affligeant sympathiquement, sans toujours comprendre, mais confessant avec candeur l'inaptitude de son esprit. Depuis 2 ans que durait le séraphique concubinage, il s'était fait une compénétration très intime de ces 3 âmes, vivant entre elles et séparées du reste du monde. Quoique le verdier n'habitât pas la rue des Fourneaux, on l'y voyait presque tous les jours. Il avait même résolu de s'y fixer au plus prochain terme. Dans les 6 dernières semaines, il avait été régulièrement prendre des nouvelles de Véronique, lire avec elle les lettres de l'absent, et il pouvait témoigner de l'uniformité parfaite de sa vie, jusqu'au jour où cette fille de prière et d'holocauste spontanée, ayant reçu le message de la grande chartreuse, avait accompli, sans l'avertir, l'acte inouï qu'il lui fallait maintenant raconter à ce malheureux homme, pour lequel il aurait volontiers souffert et qui lui commandait de l'égorger. Il raconta donc ce qu'il savait, ce qu'il avait vu ou compris. Son émotion était si grande qu'il balbutiait et sanglotait presque, ce dialecticien rapide et précis. Il pâtissait en 3 personnes, comme Dieu voudrait pâtir, s'affolant et s'évanouissant de douleur sous la blessure ouverte de ses 2 âmes, qui ne pouvait saigner que sur la sienne. Quant à Marche Noire, il avait assez à faire de ne pas expirer sous la barre qui le rompait, comme un vulgaire assassin qu'il s'accusait d'être. À chaque détail, il poussait un « an » caverneux, en crispant ses poings, et grinçait des dents comme un tétanique. Seulement, il voyait plus loin que le verdier et connaissait mieux sa Véronique. Il discernait, à travers la buée de son supplice, à lui, une immense beauté de martyr que cet homme de petite foi ne pouvait apercevoir dans son plan surnaturel, et il rencontrait ainsi un principe de consolation future dans le paroxysme même de son désespoir. Or, voici ce qui s'était passé. Véronique avait reçu la lettre il y avait environ 8 jours. Le verdier était venu la voir presque aussitôt après, l'avait trouvée, suivant son expression, noire et agitée, ayant sur son beau visage, en ciel d'automne, les stigmates d'un récent déluge. Il n'en avait conçu aucun soupçon ni aucune alarme, ayant l'habitude prise de tout rapporter d'elle aux exigences d'une hyperesthésie mystique, et sachant avec quel luxe on pleurait dans cette maison. Véronique, d'ailleurs, ne lui avait pas parlé de la lettre. On s'était, comme toujours, entretenu de Marche Noire, en exprimant pour lui l'ordinaire vœu d'un prochain retour et d'une accalmie dans sa destinée. Demeurée seule, la sainte se mit en prière. Ce fut une de ces implorations sans fin ni mesure, dont la durée et la ferveur étonnaient jusqu'à Marche Noire. L'assomption d'une flamme rigide, blanche, affilée comme un glaive, sans vacillation, sans vibration extérieure, dans ce silence aimanté de la contemplation, qui ramasse autour de lui tous les murmures et tous les frissons pour se les assimiler. Prière non formulée et intransposable sur le clavier de n'importe quel langage, dont le désir sensuel est, peut-être, un distant symbole, dégradé mais intelligible. La nuit tomba lentement autour de ce pilastre d'extase. Quand Véronique ne distingua plus la face pendante de son crucifix, elle raviva une petite lampe d'oraison, toujours allumée dans une coupe de cristal rose, et s'agenouilla de nouveau. L'objurgation amoureuse recommença, plus enflammée, plus véhémente, plus extorsive. C'eût été un spectacle d'effroi et de pitié déchirante, de voir cette suppliante à genoux par terre, les bras en croix, deux ruisseaux de larmes coulant de ses yeux jusque sur le plancher, absolument immobile, à l'exception de sa gorge superbe, soulevée et palpitante par l'élan de son prodigieux espoir. Des heures s'écoulèrent ainsi, leurs sonneries lointaines venant expirer en vain dans cette chambre immergée de dilection, où les atomes avaient l'air de se recueillir pour ne pas troubler le grand œuvre de la charité. Vers le matin, elle se releva enfin, brisée, frissonnante, baisa longuement les pieds de plâtre de l'image, s'enroula dans une couverture de laine, s'étendit sur son lit sans l'ouvrir, suivant son habitude, et s'endormit aussitôt en murmurant « Doux sauveur, ayez pitié de mon pauvre Joseph, comme il a eu pitié de moi !» Lorsqu'un pâle rayon de soleil vint réveiller la pénitente, son premier regard fut, comme toujours, pour son crucifix, et sa première pensée se traduisit par un éclat de joie. « Ah, monsieur Marchenoir !» s'écria-t-elle en sautant à bas de son lit. « Vous vous permettez d'être amoureux de Madeleine ? Attendez un peu. Je vais me faire belle pour vous recevoir. Vous ne savez pas encore ce qu'une jolie femme peut inventer pour plaire à celui qu'elle aime. Vous allez la prendre tout de suite. » Alors, dénouant d'un geste sa magnifique chevelure, couleur de couchant qui lui descendait jusqu'aux genoux, et dans laquelle 40 amants s'étaient baignés, comme dans un fleuve de flammes où renaissaient leurs désirs, elle la ramassa à poignée sur sa tête, d'une seule main, et de l'autre fit le geste de s'emparer d'une paire de ciseaux. Puis tout à coup, se ravisant, « Non, dit-elle, je les couperai mal. Le marchand n'en voudrait pas, et j'ai besoin d'argent pour l'autre chose. » Elle s'habilla rapidement, fit sa prière du matin et sortit. Quand elle rentra, elle était tendue comme une brebis d'or et rapportait 60 francs. L'infâme perruquier, qui l'avait volé, d'ailleurs, avait rétabli tant bien que mal, avec des bandeaux et des étoupes, l'harmonie de sa tête. Mais le massacre était évident et horrible. Elle avait pu échapper, sous son épaisse fanchon, à l'examen des gens de la maison. Mais si le verdier allait venir, il avait de très bons yeux, et il serait impossible de se cacher de lui. Il s'opposerait sûrement à ce qu'elle voulait faire encore. Cette crainte la mit en fuite. « Mieux vaut en finir tout de suite, » pensait-elle, en redescendant comme une voleuse. Chapitre 42. Elle se souvenait d'avoir autrefois connu, rue de l'Arbalète, un petit juif besogneux qui vivait de 20 métiers plus ou moins suspects. Le vieux drôle faisait ostensiblement l'immonde commerce des reconnaissances du mont de pitié, et elle s'était laissée rançonner par lui un assez bon nombre de fois. C'était bien l'homme qu'il lui fallait, celui-là. Il n'était certes pas encombré de scrupules. Pour 2 francs, on lui aurait fait nettoyer une dalle de la morgue avec sa langue. D'ailleurs, il la connaissait, et savait qu'elle ne le dénoncerait jamais à personne. « Monsieur Nathan, » dit-elle en arrivant chez le personnage, « avez-vous besoin d'argent ?» Ce monsieur Nathan était une petite putridité judaïque, comme on en verra, paraît-il, jusqu'à l'abrogation de notre planète. Le Moyen-Âge, au moins, avait le bon sens de les cantonner dans des chenils réservés et de leur imposer une défroque spéciale qui permit à chacun de les éviter. quand on avait absolument affaire à ces puants, on s'en cachait comme d'une infamie, et on se purifiait ensuite comme on pouvait. La honte et le péril de leur contact étaient l'antidote chrétien de leur pestilence, puisque Dieu tenait à la perpétuité d'une telle vermine. Aujourd'hui que le christianisme a l'air de râler sous le talon de ses propres croyants et que l'Église a perdu tout crédit, on s'indigne bêtement de voir en eux les maîtres du monde, et les contradicteurs enragés de la tradition apostolique sont les premiers à s'en étonner. On prohibe le désinfectant et on se plaint d'avoir des punaises. Telle est l'idiotie caractéristique des temps modernes. Monsieur Nathan avait eu des fortunes diverses. Il avait raté des millions, et quoiqu'il fût très malin, on le considérait parmi ses frères comme un peu jobard. Son vrai nom était Judas Nathan, mais il avait voulu qu'on l'appelât Arthur, et tel était son principe de mort. Ce juif était rongé du vice chrétien de vanité. Successivement tailleur, dentiste, marchand de tableaux, vendeur de femmes et capitaliste marron, mais toujours travaillé de dandysme, il avait tout sacrifié, tout galvaudé pour cette ambition. Une heure glorieuse avait pourtant sonné dans sa vie. Il s'était vu directeur d'un journal légitimiste vers les dernières années du Second Empire. Mais précisément, cette élévation l'avait perdu. La grâce d'Israël s'était retirée de lui et il avait fait de sottes affaires. Sa déconfiture, quoique retentissante, avait été trop ridicule pour qu'il s'en relevât jamais. Maintenant, Dieu seul pouvait savoir ses industries. Mais en vieillissant, ce petit bellâtre, qu'on rencontrait partout où tintait la ruine, était devenu positivement sinistre. Au milieu d'indicibles tripotages, ce grotesque filou n'abdiquait aucune de ses anciennes prétentions, et on retrouvait toujours en lui le désopilant roublard qui fit offrir un jour au comte de Chambord de se convertir publiquement au catholicisme si on le faisait marquis. Il avait toujours la même politesse de garçon de bain ou d'huissier de tripot, et le même geste fameux de tapoter les deux choux-fleurs latéraux qui faisaient encore bellement à son crâne chauve. Il avait surtout le même empressement auprès des femmes, qu'il enrichissait gracieusement de ses conseils ou de ses prophéties, en les dépouillant de leurs bijoux et de leur argent. Car il était fort considéré par les filles de la rive gauche, où il était venu s'établir, étant à la fois leur banquier, leur courtier, leur marchande à la toilette, leur consolateur et leur oracle. Parfois aussi leur médecin, disait-on. Mais cette dernière chose flottait dans un salubre mystère. « Et comment, c'est vous, cher enfant? Bon Dieu, qu'il y a longtemps qu'on ne vous a vu! On vous croyait perdu à jamais! Votre disparition nous avait tous désespérés! » Et pour mon propre compte, je vous donne ma parole d'honneur que j'étais inconsolable. Mais vous avez eu pitié de vos victimes, et vous nous revenez sans doute. Pauvre agneau, il t'a lâché, je l'espère, ce sauvage avec qui tu vivais. Ces paroles, équivalentes à rien et proférées d'une voix lointaine, défunte, paraissaient sortir d'un phonographe vert de grisé, où elles auraient été inscrites depuis 60 ans, voulait surtout cacher l'étonnement du vieux malandrin. 15 ou 18 mois auparavant, il avait eu l'audace de se présenter chez Marche Noire, dont il avait découvert l'adresse, sous prétexte d'offrir une occasion de dentelle. En réalité, pour négocier un stupre fastueux dont les conditions inouïes, chuchotées à l'oreille de son ancienne cliente, lui paraissait devoir tout emporter. Mais dès le premier mot, Véronique avait été chercher son ami qui travaillait dans la chambre voisine, et celui-ci avait simplement ouvert la fenêtre, en sourcillant d'une façon si claire que l'ambassadeur, abandonnant pour quelques instants sa dignité, avait cru devoir disparaître aussitôt par l'escalier. « Monsieur Nathan, » répondit la visiteuse avec fermeté mais sans colère, « je ne suis pas venue pour vous faire des confidences, et je vous prie de me parler convenablement. sans me tutoyer, si c'est possible. Il s'agit d'une affaire des plus simples. Vous savez arracher les dents, n'est-ce pas? Combien me prendrez-vous pour m'arracher toutes les dents? » Pour le coup, Nathan n'essaya plus de dissimuler sa stupéfaction. Machinalement, il vérifia d'un geste les deux touffes peintes en blond de diarrhée qui lui garnissaient les tempes, resserra autour de son torse de coléoptère le cordon à sonnette d'une robe de chambre couleur firmament pisseux, et revenant à marche forcée du fond de la pièce où l'avait lancé la première commotion. « Vous arrachez les dents ? » s'écria-t-il, subitement animé, jaillissant, presque humain. « Toutes les dents ? Ah, ça, mademoiselle, ai-je mal entendu ? Ou suis-je assez comblé de disgrâce pour que vous ayez le dessein de vous moquer de moi ?» Véronique se découvrit la tête. « Et cela, monsieur, qu'en pensez-vous ? Est-ce une plaisanterie ? Je le répète, je veux me débarrasser de mes dents, comme je me suis débarrassée ce matin de mes cheveux. Cela est absolument nécessaire, pour des raisons que je n'ai pas à vous dire. Je me suis adressée à vous parce que je craignais qu'un dentiste ordinaire ne voulût pas. Vous devez me connaître, je suppose. Personne ne saura jamais que je suis venue ici. J'ai 3 louis à vous offrir pour une opération qui ne prendra pas 2 heures, et je vous ferai cadeau de mes dents par-dessus le marché. Il me semble que vous n'aurez pas fait une trop mauvaise journée. Si cela ne vous va pas, bonsoir, je vais ailleurs. Est-ce oui ou non ? » La dispute fut longue, cependant. Jamais ce misérable Nathan n'avait été secoué d'une si rude sorte. Il voyait bien que Véronique n'était pas folle, mais il ne pouvait concevoir qu'une jolie fille voulût se faire laide. Cela renversait toutes ses idées. Puis il y avait, dans cette pourriture d'homme, un coin phosphoré qui n'était peut-être pas absolument exécrable. Il reculait à la pensée de détruire ce beau visage. De même qu'il aurait hésité, au moins 1 minute, fût-ce pour 1 million, à brûler une toile de Léonard de Vinci ou de Gustave Moreau. L'anéantissement pur et simple d'une richesse de ce genre le confondait. Ce scrupule, d'ailleurs, se compliquait de plusieurs craintes. Il avait reçu bien des volées dans sa vie, mais la main de Marche Noire, non encore éprouvée, lui semblait plus redoutable que celle du Seigneur, sans compter le grappin de la justice humaine qui pouvait intervenir aussi et se fourrer curieusement dans ses petites affaires. Véronique, discernant à merveille ce qui se passait dans cette âme vaseuse, se décida, malgré sa répugnance, à en finir par l'intimidation. « Vous n'avez pas tant balancé, lui dit-elle, quand il s'est agi de la petite Sarah. Je sais par cœur toute cette histoire, et même plusieurs autres. Faites-y bien attention. Allons, soyez raisonnable, et ne me laissez pas languir plus longtemps. Encore une fois, il ne vous arrivera rien de fâcheux à cause de moi. Je m'y engage. Et 3 louis sont toujours bons à gagner. » Elle faisait allusion à une abominable affaire d'avortement, où la mère avait failli périr, et qui avait donné beaucoup d'inquiétude au bel Arthur. Il se décida sur le champ, alla chercher l'outil de torture, disposa toutes choses avec des petits mouvements nerveux, et finalement installa Véronique dans un profond fauteuil de cuir en pleine clarté. Elle renversa la tête et montra une double rangée de dents lumineuses, des dents à mordre les plus durs métaux humains. Le tortionnaire abject, par une dernière impulsion de vague pitié, lui déclara qu'elle allait atrocement souffrir. « J'y suis préparée, » répondit la sainte. « J'espère avoir du courage. Je tâcherai de me souvenir que j'ai mérité des souffrances plus grandes encore. » Alors s'accomplit cette horreur. À chaque dent qui s'en allait, la pauvre Véronique, en dépit de sa volonté, poussait un léger cri, et ses yeux se remplissaient de larmes, pendant que des ruisseaux de sang écumeux coulaient sur l'épaisse toile du tablier de cuisine que Nathan lui avait ficelé autour du cou. Quand la mâchoire supérieure fut complètement dégarnie, l'exécuteur dut s'arrêter. L'infortuné avait perdu connaissance et se tordait spasmodiquement. Il fallut la ranimer, étancher le sang qui partait à flots, arrêter l'hémorragie, calmer les nerfs. Toute besogne familière à cet omniscient des basses pratiques chirurgicales. Il exprima son avis de renvoyer à quelques jours la seconde partie de l'opération, dans le secret espoir de ne la voir jamais revenir et d'échapper ainsi à une corvée qui lui déplaisait, ayant d'ailleurs soigneusement empoché l'argent. Mais, au bout d'un quart d'heure, l'étonnante martyre lui signifia énergiquement, sans parler, qu'elle voulait que cela continuât. Rien ne fut plus horrible. L'opérateur gagna son salaire. Les anesthésiques ordinaires étaient sans effet sur ce paquet de nerfs en déroute, effroyablement ébranlé déjà, malgré l'héroïsme de la patiente. La syncope se renouvela 5 ou 6 fois, de plus en plus inquiétante. Une minute, Nathan, terrifié, crut au tétanos. Enfin le supplice s'acheva, et peu à peu reparut l'équilibre. Véronique but un cordial préparé d'avance, et souffrant encore d'atroces douleurs. Mais, redevenue l'impératrice d'elle-même, elle regarda tristement sur la table le gisant trésor de l'écrin de sa bouche, vide à jamais. Puis, s'approchant d'un miroir, elle poussa un cri, un seul cri funèbre, sur sa beauté dévastée, gémissement de la nature qu'elle ne put réprimer. Le sordide Nathan, étonné de son propre trouble, balbutiait quelques phrases vaines, alléguant l'espèce de violence qu'il avait subie. C'est alors que la chrétienne, avec une noblesse d'humilité éternellement inintelligible pour les âmes viles, obéissant à cette furie d'abaissement qui est un des caractères de l'amour mystique, ramassa la main de l'immonde bandit, cette main cireuse, boudinée, dans laquelle avait tenu toutes les crapules, et la baisa, comme l'instrument de son martyre, de ses lèvres sanglantes et déformées. « Adieu, monsieur Nathan, » dit-elle ensuite, d'une voix qu'elle-même ne reconnut plus. « Je vous remercie. N'ayez aucune inquiétude. Vous faites souvent de vilaines choses dans votre métier, mais je prierai mon sauveur pour vous. » Chapitre 43. Le verdier n'avait guère à raconter à son ami que le bouleversant émoi qu'il avait éprouvé le lendemain en revoyant Véronique. Le pauvre garçon avait reçu un coup terrible dont il restait assommé. Cette figure charmante, qui avivait pour lui les grises couleurs de la vie et qui leur versait à tous deux l'espérance, elle n'existait plus. Elle était affreusement, irrémédiablement changée. Il n'y avait plus de beauté du tout. Telle fut du moins son impression. C'était vrai qu'il l'avait vue déformée par l'affliction, battue par les souffrances, et que maintenant, après une semaine, ses accidents avaient disparu. Mais cette bouche, complètement édentée, il ne pouvait plus la reconnaître, et le souvenir de ce qu'elle avait été la lui faisait paraître épouvantable. Le premier jour, il s'était trouvé sans parole, privé d'intelligence, asphyxié de douleur, à moitié fou. Il avait fallu que Véronique elle-même le ranimât, lui disant à peu près « C'est moi seule qui ai voulu cette chose ». Avais-je un autre moyen d'obéir à la lettre que voici ? » Et elle lui avait donné la lettre de Marche Noire, qu'il n'avait pu lire en sa présence, mais qu'il avait emportée chez lui, en prenant la fuite, abruti par l'étonnement, ivre de chagrin et de remords. Car il s'accusait d'être un dépositaire sans vigilance, odieusement infidèle. Il aurait dû deviner, empêcher. Mais aussi, cette lettre était d'un aliéné. Comment Marche Noire, connaissant cette âme excessive, capable de toutes les résolutions, avait-il pu l'écrire? Le verdier était en proie à un mélange de désespoir et de rage qui lui faisait, en parlant, sauter le cœur hors de la poitrine. Quelque expérience qu'il crut avoir de ses deux amis, il y avait malgré tout certaines choses qu'il ne pouvait pas arriver à comprendre. Si Marche Noire l'eût consulté, il lui eût certainement répondu par le conseil d'épouser, quand même, Véronique, et il eut de toutes ses forces travaillé à démontrer à Véronique l'absolue nécessité de devenir la femme de Marchenoir. Point incroyant, mais boiteux de pratique et nullement organisé pour la vie contemplative, il avait été quelque temps sans croire à la pureté de leur relation. Il avait fallu les affirmations réitérées de son ami, qu'il savait incapable d'hypocrisie, et l'irrécusable évidence de certains faits pour le persuader. Dans les derniers mois, il avait bien remarqué l'enthousiasme de Marchenoir pour sa compagne, mais n'ayant pas le diagnostic psychologique du père Athanase, il n'avait pas conclu comme lui à la passion amoureuse, n'y voyant qu'une période nouvelle du commun transport religieux qu'il s'était interdit de juger. La lettre à Véronique avait été pour lui comme un flambeau sans réflecteur, dans un de ces souterrains où les ténèbres, accumulées et tassées depuis longtemps, ne font que reculer plus épaisses, à trois pas de l'insuffisante lumière qu'elle menace d'étouffer. Que signifiait, par exemple, cette jalousie rétrospective chez un homme que ses actes et ses paroles jetaient en dehors de toutes les voies communes et que l'opinion du monde ne pouvait atteindre? L'acte charnel touchait-il donc à l'essence même de la femme que la souillure en dut être ineffaçable à jamais? Sans doute, ce passé était un irréparable mal, mais puisqu'on était si terriblement mordu, fallait-il, après tout, sacrifier sa vie pour des fantômes et se précipiter en enfer pour échapper à un purgatoire qui eût été le paradis de beaucoup d'hommes moins malheureux? Le repentir, la pénitence, la sainteté même, n'avait-il plus cette vertu tant célébrée de remettre à neuf les pécheurs? Qu'y avait-il de commun entre la Véronique d'aujourd'hui et la ventouse d'autrefois? Ah, il en avait connu des tas de vierges qui n'étaient pas dignes, certes, de lui décrotter sa chaussure. Et en supposant qu'il restât quelque chose à souffrir, ce quelque chose pouvait-il entrer en balance avec les tourments inouïs d'une passion sans issue qui mangerait la cervelle de ce grand artiste après lui avoir dévoré le cœur? Enfin, il avait en amour des idées de sapeur-pompier, et pensait en général qu'il fallait éteindre les incendies tout d'abord, à quelque prix que ce fût. Et puisque le concubinage révoltait ses deux dévots, il concluait, sans hésiter, au sacrement de mariage. Le verdier refoulait en lui ses pensées, désormais inutiles à exprimer, n'étant pas de ces amis dont la principale affaire consiste à triompher dans leur propre sagesse, en jetant sur les épaules déjà rompues des naufragés le trésor de plomb de leurs onéreuses récriminations. D'ailleurs, il s'était dit plusieurs jours de suite que, sans doute, cette fois, ce serait bien fini la rage d'amour. Marchenoir souffrirait quelque temps, tout ce qu'on peut souffrir, puis cette passion s'éteindrait, faute d'aliments. Une mélancolie supportable s'installerait à sa place, et l'esprit reprendrait son équilibre. Véronique, irréparablement enlaidie, deviendrait cette amie très douce, cette compagne bienfaisante des heures de lassitude intellectuelle et de tristesse, cette sœur qu'on avait rêvée et que la jolie femme ne pouvait être. Elle se trouverait ainsi avoir eu raison, au bout du compte, d'accomplir cette chose, qui les faisait à l'heure actuelle si durement pâlir. Il ne resterait plus à la fin de toutes ces émotions déchirantes qu'un souvenir d'héroïsme sur les ruines inoffensives de cette beauté, que le plus étonnant miracle de charité avait sacrifié. Les deux amis étaient silencieux depuis quelques instants. Marchenoir se leva comme un centenaire, tremblant, pâle, chenu, harassé de vivre, et d'une voix suffoquée, déclara que c'était assez de discours, qu'il voyait distinctement tout ce qu'il y avait à voir. La cruauté de son imprudence et l'horrible fruit de remords qu'il en récoltait, mais qu'il était temps d'aller consoler la pauvre fille. « Elle souffre pour moi, dit-il, et non pour elle. Sa personne, elle n'y tient guère, tu as dû le remarquer. Si la paix m'est rendue, elle jugera que tout est très bien et sa joie sera parfaite. Tu ne sais pas, Georges, la qualité du sublime de cette créature. ce qu'elle vient de faire pour moi. Elle l'aurait fait aussi bien pour toi, j'en suis persuadée, ou pour quelque autre, si elle l'avait cru nécessaire. Mais le remède sera-t-il efficace? Voilà la question. C'est ma vie qui en dépend. Et la réponse n'est pas certaine. Ils étaient dans la rue. Un fiacre les recueillit et ils descendirent ensemble, sans ajouter une parole, le boulevard Montparnasse. Arrivés à l'avenue du Maine et sur le point d'entrer dans la rue de Vaugirard, où s'embranche la rue des Fourneaux, le verdier sentit que Marche Noire voulait être seul pour un premier tête-à-tête. Il le quitta donc et, planté sur le trottoir, regarda la voiture s'éloigner jusqu'au moment où elle disparut. Alors seulement il s'en alla, comblé de tristesse, l'âme noyée de pressentiments affreux. Chapitre 44. Quand Marche Noire sortit de la voiture arrêtée devant sa maison, on aurait pu le prendre pour un de ces agonisants à échéance calculable que vomissent les voitures numérotées à l'heure des consultations, sur le seuil dantesque des hôpitaux. Il tremblait tellement en cherchant sa monnaie que le cocher lui offrit de l'aider à monter chez lui. Cela le ranima. Il se hâta d'entrer, ne vit même pas la concierge, que son aspect semblait avoir déconcerté, et gravit l'escalier. Devant sa porte, il s'étonna de son courage d'être venu jusque-là, et s'aperçut en même temps qu'il n'en avait plus du tout, qu'il ne se déciderait jamais à entrer et qu'il n'avait plus qu'à s'asseoir sur une marche, en attendant la consommation des siècles. Il se mit à tourner à pas étouffés, comme un félin, sur les trois paliers, absolument incapable de s'arrêter à une résolution quelconque. Les doigts brûlés par la clé qu'il avait tirée de sa poche dans la voiture et qu'il tenait à la main depuis un quart d'heure, déplorant amèrement l'absence de Le Verdier, qu'il se maudissait pour avoir laissé partir. Tout à coup, il entendit monter au-dessous de lui et reconnut avec certitude le pas de Véronique. Épouvanté à l'idée d'un rapatriement sur cette voie publique, où 20 locataires inconnus pouvaient apparaître, il ouvrit brusquement la porte et se jeta dans l'appartement comme dans une citadelle. La jeune femme revenait, en effet, de la chapelle des Lazaristes de la rue de Sèvres, où elle allait tous les matins entendre la messe, à 7 heures, quelque temps qu'il fît. Marche Noire, qui l'accompagnait pourtant d'ordinaire, avait oublié cette circonstance. Quand elle parut, cet homme si fort eut les jambes fauchées. Il s'abattit sur le carreau, étendit vers elle ses deux mains, en remuant les lèvres, sans pouvoir articuler un mot. Véronique courut à lui, l'enveloppa de ses bras, et le relevant, le contraignit à s'asseoir. Elle-même, s'agenouillant à ses pieds, par une impulsion d'humilité et de tendresse qui rappelait leur première entrevue, le regarda, accoudé sur lui. « Chère victime, dit-il avec la douceur d'une commisération infinie. « Qu'as-tu fait ? » ?»« Pardonne-moi, bien-aimée, répondit-elle. « J'ai voulu t'obéir et te sauver. Ah, j'aurais souffert bien davantage s'il l'avait fallu. Pleure à ton aise, pauvre cœur. Dieu te consolera. » Alors, entendant cette voix changée par la torture, qui se faisait amoureuse par charité, il se détendit et se brisa. Il l'attira sur ses genoux, et lui cachant le visage dans ses bras et sur sa poitrine, il sanglota éperdument. Ce fut une de ces rafales de pleurs, comme il en avait eu si souvent, et qui déjà, tant de fois, l'avait délivré des suggestions du désespoir. Longtemps, ses larmes, grossies par tous les orages intérieurs qui avaient précédé cet instant, roulèrent en ruisseaux sur la tête mutilée de la martyre, qui se fondait elle-même de compassion, blottie comme une hirondelle contre la paroi de ce sein mouvant. À la fin, voyant que la crise s'affaiblissait et qu'un peu de calme allait revenir, elle se dégagea doucement, alla tremper son mouchoir dans l'eau fraîche et, avec des mouvements maternels, vint baigner et essuyer les yeux de son amie. « Maintenant, chère malade, lui dit-elle en le baisant au front. « Je vais vous conduire dans votre chambre. Vous vous étendrez sur votre lit et vous dormirez quelques heures. Vous devez en avoir besoin. Ne me regardez pas de cet air navré. Vous vous ferez à ma nouvelle figure et vous finirez par la trouver convenable. Je vous assure que je me trouve aussi belle qu'avant. C'est une habitude à prendre. Allons, monsieur le saule pleureur, allongez les jambes. Voici deux couvertures, un oreiller pour votre tête et je tire les rideaux. Quand vous vous réveillerez, votre servante vous aura fait un bon feu, un bon petit déjeuner et votre ange gardien aura chassé votre gros chagrin. » Marche Noire, complètement épuisée, s'était laissé faire comme un enfant et dormait déjà. Véronique, retirée dans l'autre chambre, alla se prosterner devant l'immense crucifix qu'il lui avait acheté, sur sa demande, rue Saint-Sulpice, en un jour de richesse, procréation d'un art abject, que la pitié de la thaumaturge transfigurait en chef-d'œuvre. « Mon doux sauveur, murmura-t-elle, ne vous fâchez pas contre moi. Vous voyez bien que j'ai fait ce que j'ai pu. Mon confesseur m'a blâmé très sévèrement de ce qu'il appelle un zèle téméraire, et je dois croire que vous lui avez inspiré ce blâme. Il m'a dit que j'avais mal compris votre précepte d'arracher soi-même ses propres membres quand ils deviennent une occasion de scandale, et cela se peut bien, puisque je suis une fille pleine d'ignorance. Mais, mon Jésus, si je me suis trompée, ne jugez que mon intention et prenez pitié de ce malheureux qui a exposé sa vie pour me donner à vous. Si je dois lui être un obstacle, détruisez-moi plutôt, faites-moi mourir, je vous en supplie par votre divine agonie et les mérites de tous vos saints. Je n'ai que ma vie à vous offrir, vous le savez, puisque je n'ai pas d'innocence et que je suis la plus grande pauvresse du monde. » Chapitre 45. C'était l'heure où la pire brute, assouvie de son repos, sort de ses antres et coule à pleine rue dans tout Paris. La besogneuse pécore aux millions de pieds, coureuse d'argent ou de luxure, mugissait aux alentours dans cet excentrique quartier. Le prolétaire souverain, à la gueule de bois, s'élançait de son chenil vers d'hypothétiques ateliers. L'employé subalterne, moins auguste, mais de gréement plus correct, filait avec exactitude sur d'imbéciles administrations. Les gens d'affaires, l'âme crottée de la veille et de l'avant-veille, couraient sans ablution à de nouveaux tripotages. L'armée des petites ouvrières déambulait à la conquête du monde, la tête vide, le teint chimique, l'œil pocheux des douteuses nuits, brimbalante avec fierté de cet arrière-train autoclave, où s'accomplissent, comme dans leur vrai cerveau, les rudimentaires opérations de leur intellect. Toute la vermine parisienne grouillait en puant et déferlait, dans la clameur horrible des bas négoces du trottoir ou de la chaussée. Qui donc se fût avisé de soupçonner là, derrière une de ces murailles de rapport dont s'éloigne en gémissant l'ange à pans coupés de l'architecture, une mystique véritable, une Thaïs repentie, une furie de miséricorde et de prière, comme il ne s'en voit plus depuis des siècles? Et qui donc, l'apprenant, n'aurait pas éclaté de ce rire de graisse qui déculotte les peuples sages, venus à point pour être fustigés? L'action qu'elle venait d'accomplir, cette simple chrétienne, était aussi parfaitement inintelligible pour ses contemporains que pourrait l'être la transfiguration du Seigneur aux yeux d'un hippopotame vaquant à son bourbier. Une si haute température d'enthousiasme répugne invinciblement à la fuyante queue de maquereau de cette fin de siècle. Jamais, sans doute, dans aucune société, l'héroïsme ne fut aussi généralement cocufié par la nature humaine, depuis 6000 ans que ce rare pèlerin d'amour est forcé de concubiner avec elle. Le christianisme, quand il en reste, n'est qu'une surenchère de bêtises ou de lâcheté. On ne vend même plus Jésus-Christ, on le bazarde, et les pleutres enfants de l'église se tiennent humblement à la porte de la synagogue pour mendier un petit bout de la corde de Judas qu'on leur décerne enfin de guerlasse, avec accompagnement d'un nombre infini de coups de souliers. Si la pauvre fille avait dû être jugée, ce n'est assurément ni par les hérétiques ni par les athées qu'elle eût été le plus rigoureusement condamnée. Ceux-là se fussent contentés de la gratifier en passant de quelques pelletées d'ordures. Mais les catholiques l'eussent dépecée pour en engraisser leurs cochons. Aucune chose, à l'exception du génie, n'étant aussi férocement détestée que l'héroïsme, par les titulaires actuels de la plus héroïque des doctrines. Ce qu'ils nomment « vie spirituelle », par un étrange abus du dictionnaire, est un programme d'études fort compliqué et diligemment enchevêtré par de spéciaux marchands de soupe ascétique en vue de concourir à l'abolition de la nature humaine. La devise culminante des maîtres et des répétiteurs paraît être le mot « discrétion », comme dans les agences matrimoniales. Toute action, toute pensée non prévue par le programme, c'est-à-dire toute impulsion naturelle et spontanée, quelque magnanime qu'elle soit, est regardée comme indiscrète et pouvant entraîner une réprobatrice radiation. Donner son porte-monnaie à un homme expirant d'inanition, par exemple, ou se jeter à l'eau pour sauver un pauvre diable, sans avoir auparavant consulté son directeur et fait au moins une retraite de 9 jours, telles sont les plus dangereuses indiscrétions que puisse inspirer l'orgueil. Le scrupule dévot à lui seul exigerait une seconde rédemption. Les catholiques modernes, monstrueusement engendrés de Manrès et de Port-Royal, sont devenus en France un groupe si fétide que par comparaison, la Moffette maçonnique ou anticléricale donne presque la sensation d'une paradisiaque buée de parfums. Et Dieu sait pourtant que de ce côté-là, les intelligences et les cœurs n'ont plus grand-chose à recevoir maintenant pour leur porcine réintégration de l'animal circé matérialiste. Il est vrai qu'on n'a pas encore abattu toutes les croix, ni remplacé les cérémonies du culte par des spectacles antiques de prostitution. On n'a pas non plus tout à fait installé des latrines et des urinoirs publics dans les cathédrales, transformées en tripots ou en salles de café-concert. Évidemment, on ne traîne pas assez de prêtres dans les ruisseaux. On ne confie pas assez de jeunes religieuses à la sollicitude maternelle des patronnes de lupanard de barrière. On ne pourrit pas assez tôt l'enfance, on n'assomme pas un assez grand nombre de pauvres, on ne se sert pas encore assez du visage paternel comme d'un crachoir ou d'un décrottoir. Sans doute. Mais toutes ces choses sont sur nous et peuvent déjà être considérées comme venues, puisqu'elles arrivent comme la marée et que rien n'est capable de les endiguer. Le mal est plus universel et paraît plus grand à cette heure qu'il ne fut jamais, parce que jamais encore la civilisation n'avait pendu si près de terre, les âmes n'avaient été si avilies, ni le bras des maîtres si débile. Il va devenir plus grand encore. La République des vaincus n'a pas mis bas toute sa ventrée de malédiction. Nous descendons spiralement depuis 15 années dans un vortex d'infamie. Et notre descente s'accélère jusqu'à perdre la respiration. Nous allons maintenant, comme la tempête, sans aucune chance de retour, et chaque heure nous fait un peu plus bête, un peu plus lâche, un peu plus abominable devant le Seigneur Dieu, qui nous regarde des enfoncements du ciel. Joseph de Maistre disait, il y a plus d'un siècle, que l'homme est trop méchant pour mériter d'être libre. Ce voyant était un contemporain de la Révolution, dont il contemplait en prophète la grandiose horreur, et il lui parlait face à face. Il mourut dans l'épouvante et le mépris de ce colloque, en prononçant l'oraison funèbre de l'Europe civilisée. Il n'aurait donc rien de plus à dire aujourd'hui, et les finales porcheries de notre dernière enfance n'ajouteraient absolument rien à la terrifiante sécurité de son diagnostic. Eh bien, quand toutes les menaces de la crapule antireligieuse auront enfin crevé sur nous, comme les nuées d'un sale déluge, quand la société soi-disant chrétienne, irréparablement désagrégée, s'en ira, comme une flotte d'épaves nidoreuses sur le liquide phosphoré qui aura submergé la terre, que sera-ce auprès du monstre déjà formé, dont la raison s'épouvante et qui règne en accroupi despote sur le stérile fumier de nos cœurs? Il n'y a que deux sortes d'immondices, les immondices des bêtes et les immondices des esprits. Or, c'est une puanteur bien subalterne que la boue révolutionnaire et anticléricale. Elle est fabuleusement surannée et plus vieille encore que le christianisme. Elle coule des parties basses de l'humanité depuis 60 siècles et a usé des pelles et des balais à payer la rançon d'un roi de vidangeur. C'est un inconvénient de ce triste monde, une simple affaire de voirie et d'assainissement pour les diligentes autorités qui ont à cœur la santé publique. Il faut que la brute suive sa loi, et le mal est à peu près nul aussi longtemps que ces autorités ne décampent pas. Et même alors qu'elles ont décampé, le mal se coule en persécution pour se transformer en gloire. Les injures bestiales, les goitreux défis, les sacrilèges stupides, les idiotes atrocités de nègres échappés au bâton et tremblant d'y retourner, tout cela est peu de chose et ne contamine essentiellement ni la vérité ni la justice. Depuis le calvaire et le mont des Oliviers, il n'y a rien qui n'ait été tenté par l'interne pourceau du cœur de l'homme contre cette excessive magnificence de la douleur. L'invention n'est plus possible, et les Galilées ou les Edison de la fripouillerie démocratique y perdraient leur génie. Rabâchage de séculaires rengaines, recopie sempiternelle de farces immémorialement décrépites, remâchement de salopes facéties dégobillées par d'innumérables générations de gueules identiques, parodies éculées depuis 2000 ans. On n'imagine rien de plus. Il est probable que les Juifs étaient plus forts, d'abord, pour avoir été les initiateurs, et peut-être aussi parce qu'ayant à faire souffrir l'homme qui devait assumer toute expiation, ils savaient des choses dont l'épaisse ignorance des blasphémateurs actuels n'a même pas le soupçon. Ce qui est vraiment épouvantable, c'est l'immondicité des esprits. Les pieds du Christ ne peuvent pas être souillés, mais seulement sa tête. Et cette besogne d'iniquité idéale est le choix inconscient ou pervers de la multitude de ses amis. Le Christ, ne pouvant plus donner à ceux qu'il nomma ses frères aucun surcroît de grandeur, leur laisse au moins la majesté terrible du parfait outrage qu'ils exercent sur lui-même. Il s'abandonne jusque-là et se laisse traîner au dépotoir. Les catholiques déshonorent leur Dieu, comme jamais les juifs et les plus fanatiques antichrétiens ne furent capables de le déshonorer. L'imbécile rage des ennemis conscients de l'Église fait pitié. Le boniment légendaire des souterraines conspirations jésuitiques, romantiquement organisées par des cafards nauséeux mais pleins de génie, peut encore agir sur le populo, mais commence à perdre crédit partout ailleurs, ce qui étonne d'une si énorme sottise. Les calomnies stupides ont ordinairement la vie plus dure. Déjetée, savetée, éculée, indécrottable et inépousable, elle subsiste, immortellement juteuse. Il est vrai que les catholiques ont pris eux-mêmes à forfait leur propre ignominie, et voilà ce qui supplante un nombre infini de venimeuses gueules. C'est l'enfantillage voltairien d'accuser ces pleutres de scélératesse. La surpassante horreur, c'est qu'ils sont médiocres. Un homme couvert de crimes est toujours intéressant. C'est une cible pour la miséricorde. C'est une unité dans l'immense troupeau des boucs pardonnables, pouvant être blanchis pour de salutaires immolations. Il fait partie intégrante de la matière rachetable pour laquelle il est enseigné que le Fils de Dieu souffrit la mort. Bien loin de rompre le plan divin, il le démontre au contraire et le vérifie expérimentalement par l'ostentation de son effroyable misère. Mais l'innocent médiocre renverse tout. Il avait été prévu, sans doute, mais tout juste, comme la pire torture de la passion, comme la plus insupportable des agonies du calvaire. Celui-là soufflette le Christ d'une façon si suprême et rature si absolument la divinité du sacrifice qu'il est impossible de concevoir une plus belle preuve du christianisme que le miracle de sa durée, en dépit de sa monstrueuse inanité du plus grand nombre de ses fidèles. Ah, on comprend l'épouvante, la fuite éperdue du XIXe siècle devant la face ridicule du Dieu qu'on lui offre, et on comprend aussi sa fureur. Il est bien bas, pourtant, ce voyou de siècle, et n'a guère le droit de se montrer difficile. Mais précisément parce qu'il est ignoble, il faudrait que l'ostensoir de la foi fût archi-sublime et fulgurât comme un soleil. Veut-on savoir comme il fulgure ? Voici.